Bien, bonjour. Nous allons donc pour ce dernier cours le diviser en deux parties. La première, ce serait de terminer l'analyse qui nous a conduit depuis le commencement de l'affectation contraire de la sprezzatura à la curiosité, traduction pour du mot dans certaines langues, l'espagnol ou l'anglais, puis de la curiosité à l'oisiveté à travers un certain nombre de définitions de dictionnaires ou de textes du siècle d'or, et de l'oisiveté à la lecture. Et ça sera la première partie. Et dans la deuxième partie, je voudrais présenter un texte qui était un peu une illustration de ce lien entre curiosité et oisiveté, et qui est un petit travail récent que j'ai fait sur le chapitre 6 de Don Quichotte. Mais alors d'abord, revenons au propos où nous l'avons laissé la fois dernière, et qui était de voir cette tension existant entre la définition de la lecture comme lecture silencieuse, lecture visuelle, lecture individuelle, et qui du coup était suspectée par ceux qui condamnaient les mauvaises lectures ou bien utilisée par ceux qui voulaient abolir dans la fiction la différence entre le monde du texte et le monde du lecteur, et qui donc était une première modalité de la lecture qui s'impose dans toute l'Europe de la première modernité. Et là, nous avions suivi des exemples dans le cas du siècle d'or et l'utilisation, par exemple, par Cervantes de ce modèle pour faire croyable ce qui est incroyable ou faire que l'on accepte de suspendre son esprit de critique face à une fiction, ce qui était le cas du colloque des chiens inscrit à l'intérieur d'une autre nouvelle exemplaire, le mariage trompeur. Et j'étais arrivé là pour montrer que, pour autant, il ne fallait pas supposer que ce mode nouveau de lecture, qui est lecture silencieuse, lecture de l'imprimé et lecture en langue vulgaire, faisait disparaître d'autres modalités plus anciennes et toujours vivantes. La première étant, par rapport à la lecture silencieuse, la persistance des multiples formes des lectures oralisées, en rappelant que dans le premier dictionnaire de la langue espagnole, le Tesoro de Covarrubias de 1611, le mot « lire » est toujours associé à une forme ou une autre de lecture à haute voix à l'université pour enseigner les rudiments, ou encore, dans le sens le sens premier, la manière de prononcer les lettres qui sont inscrites sur le papier. Et à partir de ce constat, j'étais entré dans des séries d'exemples qui pouvaient montrer cette persistance des pratiques de la lecture à haute voix, à la fois une persistance que l'on peut noter dans certains emplois du verbe « lire » qui, seulement quand il est désignant une lecture silencieuse, quand il désigne une lecture silencieuse, on doit lui ajouter une expression qui montre qu'il s'agit d'une lecture silencieuse. C'était le cas de Lope de Vega, qui était l'inverse de Cervantes, dans lequel « lire » est en général, lorsqu'il n'y a rien d'autre après le verbe « lecture en silence », et c'est lorsque la lecture est oralisée que Cervantes le précise, et aussi montrer que, d'une part, dans le répertoire des genres discursifs et des pratiques sociales, on rencontrait cette lecture à haute voix, et on la rencontrait pour des genres auxquels on ne l'attend plus, dont elle s'est détachée. Bien sûr, il y a les genres poétiques, mais aussi la lecture des romans de chevalerie ou des romans pastoraux, mais aussi les livres d'histoire, mais aussi les œuvres théâtrales. Pour la lecture des romans, là encore, Cervantes s'approprie cette idée que le texte est fait autant pour être lu à haute voix, donc écouté, que être lu silencieusement. Puisque, par exemple, dans la deuxième partie du Quichotte, c'est le chapitre 66, le titre est « Qui traite de ce que verra celui qui le lira ou entendra celui qui en écoutera la lecture ». C'est d'ailleurs un titre ironique, puisqu'il ne dit rien sur le contenu du chapitre, mais dit sur les deux modalités de sa possible appropriation, voir par les yeux donc lire, et d'autre part, écouter lire par quelqu'un d'autre. Et dans le cas de l'œuvre théâtrale, j'avais rappelé que cette immense œuvre qu'est la Célestina, avec un premier acte d'un premier auteur, 16 actes en 1502, et puis plus tard, à partir des années 1520, 20 actes, n'était sûrement pas faite pour être représentée, mais était faite pour être lue à haute voix par un lecteur pour les autres, soit dans des formes de sociabilité ou à tour de rôle, éventuellement les auditeurs deviennent lecteurs. Et c'était sans doute là ce qu'évoquait le prologue de la Célestina, la diversité des compréhensions de l'œuvre en rapport non seulement avec la diversité des âges, des humeurs ou des conditions des auditeurs, mais aussi avec la modalité de sa transmission, c'est-à-dire la lecture à haute voix, ou bien peut-être qu'on a moins pensé, moins étudié, qui est que dans une circonstance entre le théâtre et la sociabilité, ce que les latins appelaient recitator, c'est-à-dire celui qui dit les parties parlées de la représentation dramatique, était peut-être ce type-là de lecteur plus ou moins professionnalisé, auquel s'adressait l'éditeur de la Célestina en lui enjoignant de lire avec diversité les différents personnages et de rendre par sa voix les différentes humeurs ou émotions ou sentiments des personnages. Donc, on voit que le répertoire des genres qui sont les objets possibles de lecture à haute voix est beaucoup plus large que ce qu'il ne deviendra plus tard, peut-être dès le XVIIIe siècle et sûrement dans les sociétés contemporaines. Et que, par ailleurs, comme le montre le titre du chapitre de Cervantes, cette possible destination à une lecture à haute voix impose certaines formes au discours, puisque pour une œuvre qui est une narration longue, chaque lecture à haute voix est forcément limitée dans le temps, et donc il faut découper l'œuvre en unités textuelles qui aient une relative autonomie et qui aient une relative cohérence en elle-même, de façon à ce que le lecteur et les auditeurs puissent prendre plaisir à cette lecture sans nécessairement se remémorer la totalité de ce qui est advenu auparavant. Et le découpage de certaines de ces œuvres en prose des XVIe et XVIIe siècles sous forme de chapitres relativement brefs, ce qui est le cas du Quichotte, est certainement lié à cette idée de proposer des unités de lecture qui permettent cette relative autonomie de chaque moment de lecture. Et d'autre part, c'est ce qui explique en partie aussi le succès des genres où ce découpage est inscrit dans l'œuvre elle-même, par exemple les séries de contes, Decamerone, Heptameron, ou tous les textes qui ont comme structure, pensons à Castiglione aussi, comme structure de la fiction, un échange, une conversation, des lectures qui sont faites à tour de rôle et qui donc inscrivent dans le texte une des situations possibles de sa circulation et de sa réception, puisque des lecteurs de chair et d'os pourront incarner, donner vie à ces lecteurs de papier, mais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des unités de discours qui soient suffisamment fermées et brèves pour permettre cette lecture à haute voix. D'autre part, la lecture à haute voix n'est pas seulement présente, s'emparant d'une pluralité de genres, par exemple dans le siècle d'or, mais pas seulement, mais aussi elle est présente dans l'ensemble des lieux sociaux. Et il y avait là un constat qui était de repérer ces formes de lecture à haute voix dans de multiples situations qui peuvent être des situations de pouvoir, comme je le rappelais, la lecture faite au roi, ou faites au prince, par des lecteurs chargés de cette tâche, les lectures dans le milieu familial. J'évoquais, si je me souviens bien, les lectures des romans de chevalerie que Thérèse d'Avila et sa mère faisaient. Le texte, j'y suis revenu dans la semaine dernière, ne précise pas nécessairement qu'il y avait une lecture à haute voix, mais qu'il s'agissait de lectures faites en parallèle. Alors on peut imaginer soit qu'elle, Thérèse lisait pour sa mère, soit qu'elle lisait en parallèle et conversait à propos des lectures, et ce qu'elle récuse comme étant évidemment du temps perdu, une vaine, un vain, une vaine curiosité, puisque c'était là des textes qui éloignaient de la foi, ou du moins qui s'éloignaient des lectures qui doivent préparer le chrétien ou la chrétienne. Mais plus nettement, il y a un autre moment dans la vie de Thérèse d'Avila où elle fait la lecture à haute voix pour un des frères de son père, donc un de ses oncles. Et puis, il y a ces lectures faites pour passer le temps dans de multiples lieux du monde social, dans le voyage, dans l'auberge. Et c'était là, dans le chapitre 59 de la seconde partie de Don Quichotte, lorsque deux nobles, Don Jerónimo et Don Juan, se rencontrent dans une auberge, ils attendent qu'on leur apporte leur repas, et c'est là où un des personnages dit que pour passer le temps, on pourrait lire la suite de la seconde partie de Don Quichotte de la Manche, c'est-à-dire en fait la continuation publiée en 1614 sous le nom d'Avellaneda de la première partie écrite par Cervantes et publiée en 1605. On voit donc une pluralité de formes, de lieux, de modalités de la lecture à haute voix faite par quelqu'un pour les autres. Évidemment, elle a pris aussi une importance particulière dans la transmission à ceux qui savent mal ou pas lire des textes qui leur sont lus à haute voix par ceux qui savent lire. On peut imaginer le parallèle à ce que Armando Petrucci désigne pour l'écriture, la délégation d'écriture. Ceux qui écrivent peu, ne savent pas écrire ou écrivent mal, qui délèguent à quelqu'un. L'article de Petrucci s'appelait « Scrivere per gli altri », donc « Écrire pour les autres », qui peuvent être dans un milieu social donné, ceux qui auraient été alphabétisés par rapport à ceux qui ne l'ont pas été, ou qui l'ont mal été, et donc du coup une délégation d'écriture dans le même horizon social, dans un groupe social, dans un atelier, dans un village, dans un quartier, quelqu'un peut écrire pour les autres, mais aussi la délégation verticale d'écriture, c'est-à-dire de s'adresser à des professionnels de l'écriture, et à commencer par les écrivains publics, qui dans toutes les villes de l'époque moderne était un négoce non organisé en corporation, donc assez libre, mais qui pouvait écrire pour les autres contre une rémunération. À Paris, ils étaient présents dans le cimetière des Saints Innocents, c'est-à-dire sur l'emplacement des anciennes halles. Et puis, on le voit à la fois dans des pays comme le Mexique, où il y a toujours cette tradition d'écrivain public, la Plaza Santo Domingo à Mexico a cette présence. Ils ont des ordinateurs maintenant, mais c'est le même rôle de délégation d'écriture, ou à Guadalajara. Et puis dans les villes de la, par exemple, européenne, c'est une proposition d'écrire pour les autres, que l'on voyait sous forme de publicité distribuée dans les gares, dans les rues, pour aider ceux qui sont peu ou mal alphabétisés, en particulier dans une langue qui n'est pas la leur, pour établir des curriculum vitae, pour établir des documents administratifs. Donc à cette délégation d'écriture, scrivere per gli altri, on pourrait ajouter leggere per gli altri, lire pour les autres, et avec le même type de dimension, soit une dimension où des lecteurs plus ou moins professionnels font la lecture pour les autres, tous les rôles de médiateurs culturels, soit dans un même milieu, un même horizon social, ceux qui peuvent lire le font pour ceux qui ne peuvent pas. Ça peut valoir pour l'ensemble de ces écrits imprimés qui couvrent les murs des villes de la première modernité, qui peuvent être des affiches, des annonces, des proclamations, qui ont à voir avec soit l'exercice du pouvoir, soit avec la foi. Et on a des exemples de ce type d'affiches dans le monde protestant, par exemple dans le monde luthérien, qui explique avec images et textes les fondements de la réforme. Ça peut avoir aussi un effet pour les conflits politiques. Et l'on a pu voir, par exemple, pour les Mazarinades en France, tous ces pamphlets qui ont été écrits contre Mazarin pendant les années de la Fronde, que le même texte pouvait parfois être publié comme un pamphlet et comme une affiche que l'on colle contre le mur. Il y a donc cette délégation d'écriture pour tous les matériaux écrits qui couvrent les murs des villes, marquant l'exercice du pouvoir, le commandement, marquant la lutte, le conflit, la controverse politique ou religieuse. Et d'autre part, c'est cette forme-là que l'on doit supposer pour comprendre la diffusion massive de tout ce que l'on a appelé littérature populaire dans les villes, particulièrement de la première modernité, depuis le monde ibérique avec les pliegos sueltos et le monde français, la bibliothèque bleue, ou les occasionnels préalablement, ou encore dans le monde anglais, la circulation des ballades ou des chapbooks, les livres, tous ces trois cas impliquant une vente par colporteur, et d'autre part impliquant une circulation au-delà des milieux alphabétisés, même si, y compris pour l'Espagne, les pourcentages d'alphabétisés qui sont difficiles à établir traduisent une réalité d'une possibilité d'un accès dans les milieux populaires à l'écrit. Mais reste en dehors de cet accès une grande partie de la population et la lecture à haute voix est la manière de faire circuler au-delà du monde des alphabétisés que ces textes. Il y avait ce texte que je vais citer une autre fois, qui est le texte lorsque dans le Quichotte, les personnages se rencontrent tous dans l'auberge de Juan Palomeque. C'est un moment important parce que dans cette auberge, un voyageur a laissé à la fois un texte, des livres et un manuscrit. Ce manuscrit, rapport avec notre cours, c'est les trois chapitres qui composent la nouvelle du curieux impertinent, ce défi lancé par un marié à son meilleur ami de séduire sa femme, et qui est une histoire inscrite à l'intérieur de l'histoire, puisqu'il s'agit, elle se passe en Italie, les personnages n'ont rien à voir avec les personnages du curieux. Cette nouvelle du curieux impertinent est lue dans la fiction, par le curé, aux autres protagonistes du Quichotte qui sont assemblés pour écouter cette lecture. Un de ces effets de dédoublement de Cervantes, puisque le lecteur de chair et d'os est comme dans la position de quelqu'un qui écoute le curé de la fiction lire la nouvelle du curieux impertinent. Et puis les livres laissés par ce voyageur, en dehors de ce dossier ou de ce manuscrit de la nouvelle du curieux impertinent, étaient deux livres de chevalerie et une chronique, la chronique du grand capitaine Gonzalo Hernández de Córdoba, et les deux livres de chevalerie, le Félix Marce de Hircania et Don Cirongilio de Tracia. Et là aussi, c'est une appropriation collective qui est faite de ces deux livres, et en particulier des deux romans de chevalerie, ce que décrit l'aubergiste, après que la conversation se soit engagée sur la signification que chacun donne à ces romans. Il y a une conscience, j'y reviendrai à la fin, une conscience très aiguë dans les textes espagnols siècle d'or, sans doute plus que dans d'autres littératures, de la pluralité des sens qui sont donnés à un même texte par différents lecteurs. Cette conscience qui est un peu anticipant sur la théorie de la réception, comment le lecteur donne de la signification à un texte, à la fois une signification qui n'est pas nécessairement inscrite dans le texte, qui n'est pas nécessairement la volonté de l'auteur, mais qui, d'autre part, a ses propres contraintes ou conventions, c'est-à-dire la capacité de lecture, les raisons pour lesquelles on lit, les codes esthétiques ou intellectuels. Et il y a cette perception très aiguë dans les préliminaires, dans les avis aux lecteurs, dans les prologues, dans beaucoup de textes espagnols du siècle d'or, mais parfois aussi inscrite dans la fiction elle-même, comme dans le cas de ce chapitre, qui est le chapitre 32 de la première partie du Quichotte. Et je le donne. Comme leur curé le disait que les livres de chevalerie qu'avait lus Don Quichotte lui avaient troublé l'esprit, l'aubergiste s'écria « Ah, je ne sais comment cela peut se faire. En vérité, à ce que j'entends, il n'y a pas de meilleure lecture au monde. Et j'ai ici, avec d'autres papiers, ces autres papiers, ce sont le manuscrit du curieux impertinent, deux ou trois de ces livres qui véritablement m'ont donné la vie, et non seulement à moi, mais à beaucoup d'autres. Car lorsque vient le temps de la moisson, bien des moissonneurs se rassemblent ici les jours de fête, et il y en a toujours un parmi eux qui sait lire. Il prend alors un de ses livres et nous nous mettons à plus de 30 autour de lui et restons à l'écouter avec tant de plaisir qu'il nous ôte 1000 cheveux blancs. Du moins, je puis dire de moi que lorsque j'entends parler de ces coups d'épée furibonds et terribles que vous appliquent les chevaliers, il me prend envie d'en faire autant et je voudrais les écouter nuit et jour. » Et donc on voit que d'une part, il y a dans cette référence au témoignage de l'aubergiste Juan Palomeque cette idée d'une délégation de lecture horizontale. Dans les moissonneurs, il y en a toujours un ou un autre suffisamment alphabétisé pour pouvoir faire la lecture à partir d'ouvrages qu'il ne possède pas, mais que le voyageur a laissé dans l'auberge, ces deux romans de chevalerie. Et d'autre part, on voit qu'il y a chez l'aubergiste une tentation quichotesque. Il voudrait, comme il le dit, en faire autant. C'est ce que fait Don Quichotte. Il en fait autant. Et donc, Don Quichotte n'est pas le seul à penser ou à vivre ce rapport avec la fable. Mais évidemment, l'aubergiste est peut-être en partie du fait de cette lecture qui montre clairement que les aventures de papier, des romans, ne sont pas correspondant à ce qu'est la réalité du monde social, à cette envie. Mais il ne passe pas à l'acte. Il en considérerait l'absurdité de vouloir être un chevalier. La différence est ainsi tracée avec la lecture de Don Quichotte, qui est solitaire, qui est intense et étendue, puisqu'il peut passer, comme dit sa nièce, deux jours entiers, y compris les nuits, à lire, et qui incorpore à partir de cette lecture ce monde de la fiction en lui-même, donc du coup peut s'y projeter, et considérant que le monde réel, derrière les apparences que les enchanteurs multiplient à l'envi, est ce monde de la lecture. Donc c'est un moment intéressant pour montrer à la fois, bien sûr, peut-être la trace d'une pratique sociale, les lectures à haute voix, et dans ce cas-là, dans à la campagne, dans les champs, et non pas seulement dans le monde des villes, mais aussi cette présence très fréquente chez Cervantes, des contrastes produits par la lecture silencieuse. Vous vous rappelez la lecture du Colloque des chiens, qui peut être plus acceptable, crédible, plaisante, dans une lecture silencieuse, qui va persuader qu'il faut suspendre la critique, suspendre le doute. Et là, la différence avec cette lecture à haute voix qui, immédiatement, même si elle donne envie de les imiter, montre tout à fait clairement la différence entre le monde du texte et le monde du lecteur. De la même manière qu'il y a présence, persistance de la lecture à haute voix dans un temps où la lecture en silence, individuelle, intime, visuelle, gagne du terrain, il y a aussi cette persistance de la lecture ou des manuscrits dans un monde où l'imprimé est aussi gagnant du terrain. On a vu que d'un côté, évidemment, le lecteur, quand il s'agit d'un lecteur savant, d'un lecteur humaniste, d'un lecteur lettré, est aussi un écrivain, sinon un écrivain, puisque un des fondements de la lecture lettrée, c'est d'écrire dans les livres, dans des annotations marginales, d'indiquer des thèmes, des topics, des rubriques, et ensuite de recopier les fragments ainsi désignés dans des cahiers de lieux communs. On a donc dans la technique même de la lecture humaniste cette présence de la main qui écrit sur et dans le livre, et la main qui copie des fragments, des extraits, des sentences qui viennent des livres. Mais au-delà de cela, comme l'ont bien montré des auteurs comme Fernando Bauza pour l'Espagne, comme Harold Love pour l'Angleterre, il y a une très forte présence d'une publication manuscrite. Non seulement la communication, on échange des lettres, on écrit des documents, on écrit des mémoires, mais aussi le manuscrit reste une forme de publication en concurrence ou en remplacement, en substitution de la publication imprimée. C'est le cas là pour un certain nombre de genres particuliers. Par exemple, un certain nombre, et là, ce que je dis vaut à la fois pour l'Angleterre ou l'Espagne, des libelles ou des discours politiques qui circulent en forme manuscrite. C'est le cas pour les œuvres poétiques, dans des anthologies poétiques, avec une circulation restreinte dans un milieu lettré et où chaque lecteur peut à son tour ajouter des poèmes à la collection. C'est le cas, un genre étudié particulièrement par Fernando Bauza, des instructions que les pères nobles écrivent pour leurs fils et qui sont transmises de génération en génération, donc le manuscrit ouvert s'augmente et parfois peut même se terminer par une publication imprimée. C'est le cas pour les partitions musicales, qu'il était souvent plus meilleur marché de copier ou faire copier à la main que d'imprimer avec les techniques qui étaient complexes pour imprimer les partitions. Si vous utilisez pour une partition les caractères mobiles, il y a des incertitudes, puisque est-ce que le caractère mobile correspond à une note que vous placez sur une portée déjà imprimée, mais le résultat peut être une sorte de déséquilibre et la notation ne devient pas complètement lisible, ou bien est-ce que le caractère mobile, c'est un fragment de la portée plus la note? C'était l'invention d'Athénian à Paris au milieu du XVIe siècle. Mais là encore, il peut y avoir, on peut le voir dans des partitions, des petits décalages. Et donc, du coup, on avait décidé assez tôt, au XVIIe siècle, que les partitions devaient être gravées, y compris le texte lorsqu'il s'agissait de partitions où il y avait des paroles, des airs chantés. Mais tout cela était ou techniquement ou économiquement assez coûteux, et donc la copie manuscrite de partitions est restée une habitude. Et Rousseau était un copiste aussi de musique dans les premiers temps de son existence. Donc il y a tout un ensemble de genres qui trouvent dans la publication manuscrite des raisons importantes pour la faire survivre. D'une part parce que le manuscrit, à l'inverse du livre imprimé, est ouvert, et donc une continuité peut être donnée, soit poétique, soit dans les instructions nobiliaires. Et du coup, c'est une écriture à plusieurs mains et en plusieurs moments. Et puis, c'est évidemment une écriture qui peut favoriser la circulation de la clandestinité. La publication manuscrite a été très importante pour les textes hérétiques ou hétérodoxes, avec des moments clés, par exemple la publication des libertins érudits au début du XVIIe siècle en France, ou bien au XVIIIe siècle, les manuscrits les plus hétérodoxes, de l'athéisme ou des lumières les plus radicales. Donc il y a toutes ces raisons qui font que la publication manuscrite reste un point, une forme importante de publication des textes entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Certes, il faut la situer à l'intérieur du monde de l'imprimé. Et si vous rouvrez le Covarrubias, il mentionne que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans l'an 1444 a, comme le dit le dictionnaire, changé la condition des escribanos, de ceux qui écrivent à la main, et qui, antérieurement et avant qu'il y eût l'imprimerie, gagnaient leur vie à écrire et à copier des livres. Donc effectivement, il y a eu avec l'imprimerie l'effacement d'une pratique d'écriture et de publication, d'autant que très rarement les anciens stationnaires, c'est-à-dire ceux qui étaient des maîtres ou des ouvriers ou des artisans dans l'atelier de copie, sont devenus imprimeurs. Il y a comme une discontinuité dans les métiers, mais néanmoins, cela n'efface pas les multiples formes de l'écriture à la main comme forme de publication. Et c'est ça qui est le plus important. D'autre part, je disais lecture en silence, lecture de l'imprimé, lecture du texte en langue vulgaire, le castillan, le français, l'anglais, etc. Ceci ne doit pas masquer non plus la forte persistance de du latin dans l'Europe de la première modernité. Un texte qui peut en donner une idée, c'est ce texte de Juan de Valdés, qui s'appelle « Dialogue de la langue »,« Dialogo de la lengua », qui a été composé en 1535, mais qui est resté manuscrit jusqu'à sa publication au XVIIIe siècle, par illustrado par un homme des Lumières espagnol, Gregorio Mayans y Siscar, qui est d'ailleurs l'auteur aussi de la première biographie de Cervantes. Et ce dialogue de la langue, qui correspond un peu à ce qu'on a rencontré, sans le traiter vraiment, dans Castiglione, à la querelle sur la langue, le toscan, les langues du Nord. Bon. Ce dialogue de la langue est très important pour la compréhension de ce que l'on dit du castillan et des règles qu'il faut lui appliquer, mais aussi parce que dans ce texte, il y a l'idée d'un premier répertoire des livres qu'un lecteur lettré doit lire. C'est un livre dans lequel Valdés lui-même se met en scène et répond aux questions d'un Italien, Coriolano, et celui-ci lui demandait quels sont les livres en castillan qu'il faut lire pour acquérir un bon style, donc de permettre la pureté ou la rigueur de l'emploi de la langue vulgaire. Et alors Valdés répond, je vais traduire parce que je ne sais pas s'il y a une traduction française du temps, peut-être. Je dis que, comme vous savez, qu'il y a en langue castillane trois types principaux d'écriture. Les unes composées depuis leur première naissance dans la langue castillane, certaines en vers, d'autres en prose. Et la troisième catégorie, ce sont celles qui sont traduites d'autres langues, en particulier le latin. Et donc la bibliothèque idéale en langue castillane doit comporter ces livres traduits du latin, romanzados del latín. Vous vous souvenez que le romance peut être soit toutes les langues vulgaires qui traduisent du latin, soit plus particulièrement le castillan. Et du coup, il énumère, Valdés, ces livres qui ont été traduits du latin et qui participent de la nouvelle culture de la langue castillane. Le Boèce de Consolation, un texte d'Erasme, l'Enchiridion, on est en 1535, donc il n'y a pas encore la cristallisation de l'identification d'Erasme à la Réforme et donc au protestantisme. Donc du coup, la possibilité d'introduire ce texte de l'Enchiridion ou des textes de dévotion. Valdés évoque aussi des traductions d'italien et il mentionne El Cortesano, la traduction que nous avons étudiée, au moins pour Sprezzatura, transformée en Desprecio ou Descuido de 1534, de Boscane, et des œuvres, dit-il, là, non pas traduites du latin, mais directement des poètes castillans du XVe siècle, les livres de chevalerie et La Celestina, de laquelle Valdés s'est dit si on corrige deux choses, c'est-à-dire l'utilisation de mots qui sont hors de propos et un abus de mots tant latins qu'on ne les entend pas en castillan, je suis de l'opinion qu'il n'y a aucun livre qui ait été écrit en castillan où la langue soit plus naturelle, plus propre et plus élégante. Et à ce répertoire, Valdès ajoutait les genres que l'on trouve dans le cancionero general, c'est-à-dire des genres d'une poésie parfois chantée, les coplas, les couplets, les romances, cette forme de poésie octosyllabique traditionnelle dans le monde castillan, avec des vers assonancés un sur deux, et puis les chansons ou le genre des villancicos, qui se chantent, qui se récitent, mais qui, pour Valdès, imprimés dans le cancionero general à partir du début du XVIe siècle, dit-il, on voit dans ces chansons, dans ces refrains, très bien la pureté de la langue castillane. Alors, je pense à ce texte parce qu'il me paraît intéressant. C'est sans doute un des premiers répertoires d'un corpus de textes qui, dans une langue romane, doivent être lus pour acquérir un bon style. Et l'on y voit, évidemment, là, que l'on est devant des textes qui existent en castillan, soit parce qu'ils ont été composés en castillan, soit parce qu'ils ont été traduits du latin. Mais ceci ne doit pas faire oublier, évidemment, que les livres ou les textes en latin perdurent dans leur langue originale. On a pu le mesurer avec des études sur les bibliothèques privées dans le cas de Valence et dans le cas de Barcelone au XVIe siècle. Dans le cas des bibliothèques et aussi les productions des imprimeurs. Dans le cas de Valence, Valencia, c'est entre 35 et 45% des livres imprimés chaque décade entre 1490 et 1536 qui sont en latin. C'est un pourcentage considérable, 35 à 45%. Et entre 1542 et 1572, c'est plus de la moitié, 52%. Donc une ville comme Valencia publie dans la deuxième partie du XVIe siècle ses imprimeurs, plus de titres en latin qu'en autres langues, en particulier des langues vernaculaires qui peuvent être soit le valencien, soit le castillan. C'est un travail de Philippe Berger. À Barcelone, on voit que dans la première décade du XVIe siècle, 60% des livres imprimés dans la ville sont des livres en latin. Pour la période 1510-1530, entre 45 et 50%, et le recul existe après 1530, mais tout de même maintenant, entre un quart et un tiers de la production en latin jusqu'en 1590. Et l'on voit qu'au XVIe siècle, bien sûr, il y a un progrès du castillan, et qu'il se fait aux dépens du latin, mais qu'il se fait aussi aux dépens du valencien et du catalan. Discussion infinie pour savoir si le valencien est une langue séparée du catalan, qui a une actualité brûlante à l'heure actuelle en Espagne avec les revendications d'autonomie, enfin plutôt d'indépendance de la Catalogne et qui n'inclut pas Valence. En tous les cas, jusqu'au XVIe siècle, la distinction existe et à Valence, c'est assez tôt que le castillan l'emporte sur le valencien, dès la décennie de 1510, mais à Barcelone, c'est seulement dans la décennie 1560 qu'il y a plus de livres imprimés dans la ville en castillan qu'en catalan. Et on voit que ce jeu a trois langues, le latin, le castillan, le catalan et ou le valencien, définit à la fois la persistance durable d'un poids considérable de la production des livres en latin dans la production de imprimée de la ville, et d'autre part, un décalage dans le décrochage entre castillan et une autre langue vernaculaire, plutôt à Valence, plus tard à Barcelone. À ces études, alors ça c'est une étude qui a été menée par Manuel Peña dans deux livres très importants sur les livres, les langues et l'édition dans la Barcelone du XVIe siècle. L'analyse qui complète celle-ci, c'est l'analyse des bibliothèques privées. Et on voit, enfin, la conclusion pouvait être plus attendue, que la modernité linguistique, catalan puis castillan, se marque surtout dans les bibliothèques des marchands des artisans les plus fortunés qui sont dominés par le catalan, puis par le castillan, alors que les bibliothèques des élites urbaines, qu'elles soient séculières ou religieuses, marquent une résistance plus durable et plus puissante du latin, qui demeure la langue dominante jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ce qui ne voudrait pas dire non plus, et c'est les limites à ce type d'analyse, c'est le fait que les inventaires des livres possédés dans une bibliothèque privée dépendent du fait que quelqu'un en a fait l'inventaire, généralement un notaire, pour la succession. Et lorsqu'il s'agit d'imprimer sans valeur, il n'y a aucune raison de perdre son temps à noter qu'il participe de la succession. Ce qui fait que tout un ensemble d'une production comme celle de ce qu'on appelle en espagnol papeles públicos, de tous ces papiers, livrets, feuilles volantes, n'est pas pris en compte par les inventaires. Mais on peut penser qu'il circulait de manière importante dans la ville et touchant à partir de là tous les citoyens de cette ville. Ce qui expliquerait aussi d'ailleurs l'activité des ateliers d'imprimerie, puisque beaucoup d'ateliers d'imprimerie n'ont jamais imprimé le moindre livre, ou très peu de livres, mais étaient au service de cette révolution de l'écrit imprimé, qui est peut-être plus une révolution de la multiplication de ces objets imprimés qui entrent dans les relations marchandes, administratives, entre individus, que proprement dit la publication de livres. Conclusion de cela, il est clair que plus que ne le suggère la bibliothèque en romance et en castillan de Valdés, même si pour une part elle est traduction du latin, persistait la production et la possession des livres en latin d'une manière puissante durant tout le XVIe siècle. Et on le verrait un autre écho dans le Tesoro de Covarrubias, puisqu'il y a une définition de latine. Alors Covarrubias indique, le dictionnaire, que le latin a disparu comme langue commune, mais que sa connaissance continue à signifier le savoir et la sagesse. Je cite la définition. À celui qui, dans ces temps, alors là, il pense au temps des Gaules, le temps de l'Espagne médiévale, connaissait la langue latine, on le tenait pour un homme avisé et judicieux. De là est né l'habitude d'appeler aujourd'hui, hoy en día, latino, l'homme qui a de l'entendement et une capacité de construire des discours, qui est avisé, subtil et cortesano, et courtois. Donc ça nous ramène, pour la dernière partie de cet exposé, à la question de la curiosité. Est-ce que cet homme discret, avisé, judicieux, courtois, est le curieux ? Et en rapport ici de la curiosité avec la bibliothèque. Les dictionnaires français de la fin du XVIIe mentionnent explicitement ce lien entre curiosité et bibliothèque. Furtière, 1690, lorsqu'il évoque le mot « curieux », il dit, se dit en bonne part, puisque vous vous souvenez qu'il y avait une mauvaise part, c'était celui qui veut savoir les secrets des autres, les secrets du prince ou bien décacheter les lettres qui sont envoyées à d'autres. Donc il y a une mauvaise part de cette curiosité chez Furtière. Elle n'est plus nécessairement marquée du sceau de la condamnation chrétienne, mais elle est un défaut, un vilain défaut de vouloir s'occuper de ce qui ne vous regarde pas. Mais, dit-il, se dit en bonne part de celui qui a désir d'apprendre, de voir les bonnes choses, les merveilles de l'art et de la nature. Et il donne comme exemple, c'est un curieux qui a voyagé par toute l'Europe, un curieux qui a feuilleté tous les bons livres, tous les livres rares. Et du coup, on a un déplacement de la curiosité comme attitude à la curiosité comme qualité, puisque certains livres vont être eux-mêmes qualifiés de curieux. Ce livre est curieux, c'est-à-dire rare, ou contient bien des choses singulières que peu d'hommes savent. Et l'on voit que dans les deux cas, s'établit un lien entre la curiosité et la rareté. Dans la première définition, il a feuilleté tous les bons livres, tous les livres rares, et dans la deuxième définition, qui n'est plus celle du curieux lecteur, ou du lecteur curieux, mais qui est celle du livre curieux, il est dit la même chose, contient ce livre est curieux, c'est-à-dire rare. Et là s'établit une autre relation qui nous amènerait à la notion de rareté dans le cas français. En espagnol, plus rarement, on emploie le mot raridad, mais qui existe dans le dictionnaire de l'Académie, qui définit rare comme extraordinaire, peu commun ou peu fréquent. Alors, on voit que les livres cherchés par ces curieux s'inscrivent bien dans la culture de la curiosité qui, au XVIIe siècle, conçoit le savoir, la connaissance, comme dépendant d'une accumulation des êtres et des choses qui composent l'univers. Et c'est de là que vient tout un autre pan qu'il faudrait étudier, mais qui n'était pas dans mon objet, la caractéristique du cabinet de curiosité, puisque le cabinet de curiosité est un véritable microcosme. Pour ceux qui ont des cabinets de curiosité, les princes, mais aussi des aristocrates ou des gens, des savants fortunés, il s'agit de rassembler le plus possible d'exemples, de traces de la nature ou de la civilisation. Il s'agit donc de donner une première place à des singularités rares, uniques. D'abord parce qu'à travers ces objets naturels ou ces créations humaines se mesure la puissance créatrice de Dieu. Donc l'extraordinaire, le singulier, le rare est une manifestation, une preuve de cette puissance. Et surtout parce que le cabinet de curiosité, comme microcosme, doit pouvoir rassembler dans un inventaire qui peut être sans fin des éléments, des attestations, des expressions de cette pluralité des choses et des êtres. Et c'est comme ça que dans les cabinets de curiosité, on peut rencontrer des fossiles géologiques, des traces des civilisations, autres, surtout après les découvertes. Montaigne n'avait pas nécessairement un cabinet de curiosité, mais il avait chez lui un hamac indien, il avait des bâtons dont se servent les Indiens Tupinambá du Brésil pour rythmer les danses. Tout cela lui avait été porté à donner par ce voyageur ou ce marchand qu'il a informé, c'était l'objet d'un cours il y a 2 ans, qu'il a informé sur les Indiens du Brésil. Mais évidemment, les cabinets de curiosité peuvent aussi avoir des restes des civilisations romanes ou grecques. Et tout cela dans une sorte de juxtaposition, parce que c'est comme une expression visible de la puissance créatrice de Dieu et de la pluralité infinie des choses et des êtres, puisqu'il y a aussi des espèces, des spécimens d'un certain nombre d'espèces animales. Mais l'important est de considérer que c'est contre cette culture de la curiosité et contre son expression, soit le cabinet de curiosité, soit la bibliothèque de livres rares et curieux, que va s'affirmer un autre modèle de connaissance et un autre modèle de savoir. Un texte clé pour cela, c'est le texte de Gabriel Naudé, « La vie pour dresser une bibliothèque », publié en 1627, réédité en 1644, et qui définit le modèle de la bibliothèque des humanités. Et il s'oppose à cette idée de la bibliothèque des curiosités. Voilà ce qu'écrit Naudé. « Les bibliothèques ne sont dressées ni estimées qu'en considération du service et de l'utilité que l'on peut en recevoir. Et par conséquent, il faut négliger tous ces livres et manuscrits qui ne sont prisés que pour leur respect de leur antiquité, figures, peintures, reliures et autres faibles considérations. Donc tout ce qui fait la rareté, donc la curiosité d'un livre, pour Gabriel Naudet, qui envoie cet avis pour dresser une bibliothèque à un des présidents du Parlement de Paris, qui veut constituer une bibliothèque des humanités, encyclopédique, du savoir qui peut être de service et d'utilité. Ce sont ces livres-là qu'il faut exclure, et non d'un intérêt que pour une curiosité qui peut être comprise ici dans son sens négatif, c'est-à-dire sans objet ou s'adressant à des futilités. Pour Naudet, tous les critères qui vont, à partir du XVIIe siècle et encore plus du début du XVIIIe, définir les joyaux des collections des bibliophiles, l'antiquité des éditions, la rareté des exemplaires, la beauté, la somptuosité des reliures. Tout cet ensemble de traits qui définissent les livres que l'on recherche et donc qui sont rares. Un livre est rare parce qu'on le recherche. En soi, il n'y a pas de critère absolu de la rareté. C'est parce que les collectionneurs veulent s'emparer de ces livres qu'ils deviennent des objets de prix, de curiosité et de rareté et deviennent dans ce que l'on voit naître au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des ventes aux enchères, comme aujourd'hui chez Sotheby's ou dans les commissaires priseurs. Ils sont prisés à une très haute valeur. Ce sont tous ces critères qui, pour Naudet, font les livres que l'on ne doit pas mettre dans une bibliothèque bien raisonnée, tournée vers le service et vers l'utilité. La bibliothèque est une bibliothèque qui a une visée encyclopédique et qui doit organiser, selon l'ordre des facultés et des connaissances, pouvoir se vouer à l'usage du public. C'est-à-dire la bibliothèque d'un particulier doit être ouverte au public des savants, au public des lettrés, au public de ceux qui en auront usage. On voit que, du coup, ce modèle-là de la bibliothèque s'oppose à la culture de la curiosité et de la rareté. Et définition qui explique la construction ou la publication des instruments qui aident à construire cette bibliothèque humaniste encyclopédique et non pas des cabinets de curiosité qui peuvent être aussi des bibliothèques dans lesquelles on rencontre ces livres aussi rares que des spécimens animaux ou que des plumes des Indiens du Brésil. Dans le dictionnaire de Covarrubias, il y a une distinction intéressante. Le mot du XVIe siècle pour les collections privées, c'est « librairie ». Montaigne, dans sa librairie, c'est-à-dire dans la tour, au milieu des livres qu'il a accumulés, et lui-même soustrait à cette pratique des lieux communs, copiant directement dans les essais des extraits qu'il rencontre dans les livres qu'il peut aller prendre contre les murs de sa bibliothèque. Un autre point très intéressant dans la librairie de Montaigne, c'est le fait qu'il avait fait peindre sur les poutres du toit, enfin du plafond, toute une série de textes latins. Et qu'on voit un autre usage de ces écritures exposées. Là, elles étaient exposées pour son propre regard, mais elles étaient sorties des livres pour être données à voir sur un autre support qui ouvre toute une autre réflexion sur ces écritures données à voir sur des supports qui sont les murs ou, que, dans ce cas-là, les poutres. Bon, libreria ou librairie, ça désigne la bibliothèque des particuliers, et Covarrubias dit « quand une librairie est publique, on la nomme bibliothèque ». Bibliothèque. Et du coup, il y a ces trois types d'instruments qui permettent de construire ces bibliothèques. C'est d'abord des répertoires d'auteurs et de titres qui sont un instrument pour repérer l'accumulation bibliographique. Il y en a dans toutes les langues. Et le Pour le cas de la... En Espagne, il y en a au moins deux, l'une qui est en latin, la Hispaniae Bibliothecae, qui est publiée en 1608 à Francfort, et une autre qui est en espagnol, Epitome de una Biblioteca Oriental y Occidental, de Pinello, qui est Madrid, 1629. Donc, ces bibliothèques sans murs, j'avais une fois écrit un essai sur ce thème, les bibliothèques sans murs, c'est-à-dire des bibliothèques où des titres et des auteurs sont couchés sur le papier, commençant par celle de Gessner pour les textes latins et grecs, et puis ensuite dans toutes les langues romanes avec des équivalents. En France, les deux grands monuments sont la bibliothèque de la Croix du Maine et du Verdier dans les années 1580. Et on voit en Espagne plutôt décalé vers les premières moitiés, le premier tiers du XVIIe siècle. Deuxième instrument, les catalogues de bibliothèques célèbres qui deviennent des textes imprimés et qui donnent des modèles à imiter. Et puis, troisième élément, des méthodes, un peu comme l'avis de Naudet, avis pour dresser une bibliothèque. En Espagne, en latin, il y a en 1631 un livre publié par Francisco de Araos qui s'appelle « De bene disponenda bibliotheca », de la manière de bien disposer une bibliothèque. Alors donc, là, ce sont des guides pratiques, en quelque sorte, et ce texte espagnol de 1631 explique pourquoi il a choisi le petit format in octavo. Il l'a fait, je cite, je traduis, pour pouvoir tenir facilement dans la main et le porter avec une commodité suffisante là où on veut, pendant qu'on travaille à la formation d'une bibliothèque. Donc c'est réellement un guide pour aller peut-être chez un libraire pour repérer certains titres, ou quand on range les livres pour savoir dans quelle catégorie il faut les organiser. Araos avait prévu 15 catégories pour ranger les différents listes, sans que ce soit nécessairement un répertoire fermé, de façon à construire une collection de livres, je le cite, qui était digne d'être là, d'être étudiée et qui manifestait un bon équilibre. Dignos de ubicación, estudio y ponderación. Et l'on voit qu'on est évidemment dans un modèle proche de celui de Naudet et loin de la curiosité qui veut s'emparer des livres rares. Pourquoi ces instruments et pourquoi ces constructions de bibliothèques ? Je pense que parce qu'on retrouve là les deux angoisses contradictoires que l'on rencontre dans le rapport avec la culture écrite dans la première modernité, mais peut-être même aujourd'hui encore. La première anxiété est l'anxiété, la crainte de la perte, de la disparition, de l'oubli. Et à l'époque de la Renaissance, c'est cette crainte qui a, ou cette inquiétude, qui a inspiré la recherche des textes anciens, retrouver que les états les plus anciens des textes grecs et latins. Ensuite, la copie et l'impression, de différentes manières, de tout ce corpus ancien, aussi bien que les textes des corpus ou corpora juridiques, que les textes des pères et des docteurs de l'Église, les textes des auteurs grecs et romains, et ce qui explique sans doute aussi le poids du texte en latin dans la production du livre, puisque là, il s'agit de donner à des éditions corrigées, contrôlées et donc successives au texte de cette tradition récupérée. Ou bien encore la constitution des bibliothèques qui toutes étaient obsédées par le modèle impossible à réaliser, mais toujours comme un horizon de la bibliothèque, c'est-à-dire une bibliothèque universelle. Une bibliothèque où on rencontre tous les livres, ce qui était le modèle des bibliothèques royales, des bibliothèques princières, par exemple la bibliothèque de l'Escorial en Espagne, la bibliothèque Laurentina de Philippe II, qui devait, dans ses 64 catégories bibliographiques, enfermer tous les savoirs de l'humanité, y compris ceux qui étaient prohibés puisqu'ils avaient été condamnés par les index ou l'Inquisition. Donc il y a là sur une angoisse qui est que celle du manque, que quelque chose manque dans le tissu de la civilisation, quelque chose qui a été, mais qui a disparu, qu'il faut récupérer, qu'il faut retrouver. Et toutes ces initiatives s'appuient sur ce premier désir. Mais face à cela, il y a comme son pendant, c'est-à-dire une autre anxiété, une autre inquiétude, qui est celle de la peur face à l'excès incontrôlable, face à une abondance confuse, face à, non pas un ordre du discours, comme disait le philosophe, mais un désordre des livres. Et donc, du coup, il s'agit de trouver des moyens d'établir cet ordre, d'éviter cette profusion inquiétante et de donner une raison à cette accumulation de textes qui s'est multipliée avec la publication imprimée. Et l'on voit que dans toute l'Europe, cette seconde inquiétude, cette seconde peur explique la constitution de ces bibliothèques sans mur, c'est-à-dire les répertoires de tous les livres, de tous les auteurs d'une nation qui peut être définie soit par sa langue, les livres en français, les livres en castillan, soit par sa souveraineté. Et donc, un des éléments, un autre élément, la proposition de ces bibliothèques idéales avec les guides pour les construire. Donc, en gros, établir un ordre du discours qui s'oppose aux curiosités désordonnées. Vous vous souvenez que c'est un mot qui était souvent lié avec le thème de curiosité, les curiosités désordonnées des curiosos, des curieux. C'est cette tension entre l'anxiété de la perte et la crainte de l'excès qui peut expliquer finalement l'ambivalence en face de la curiosité durant les premiers siècles de la modernité. Cette curiosité s'est évidemment affirmée comme un élément essentiel, un instrument essentiel de la conquête de la connaissance, même à l'intérieur des doubles limites, celle des secrets de Dieu, les arcana dei, celle des secrets des princes, les arcana imperii. Mais c'est contre cette affirmation de saint Paul, le fameux noli altum sapere, ne pas connaître ce qui est trop haut pour l'entendement humain et ce qui doit lui rester caché, que se sont construites toutes les expressions de cette culture de la curiosité, aussi bien dans la matérialité des cabinets que dans les accumulations des textes grâce aux collections de livres. Il s'agit d'accéder à la représentation, à l'interprétation, à la connaissance des singularités infinies de la nature et du passé. Mais à partir du XVIIe siècle, là, Naudé, ou que serait un témoin, la culture de la curiosité doit s'affronter à une autre exigence de connaissance qui la disqualifie. Les règles de la méthode opposées à ce désordre des trouvailles, l'explication rationnelle des phénomènes naturels opposés à l'émerveillement devant les miracles de la nature, ou enfin la connaissance rationnelle opposée aux passions des curieux et des collectionneurs. Et pour terminer ce parcours, je lirai le moment d'aboutissement de sa disqualification de la curiosité comme ce savoir désordonné, attaché à la rareté, là où ce qui est important, c'est un ordre des connaissances qui s'attache à l'utilité et au service public. Cet aboutissement, on le trouve comme pour beaucoup d'autres trajectoires dans le Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Au moment où Bouvard et Pécuchet ont décidé, comme si on était encore au XVIIe siècle en Autriche, de construire un cabinet de curiosité. Et la description est la suivante, et je terminerai avec cela, puisqu'elle donne une forme dérisoire une forme quasi carnavalesque à ce qui était durablement une exigence de la connaissance. Je cite, 6 mois plus tard, ils étaient devenus des archéologues et leur maison ressemblait à un musée. Une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule, les spécimens de géologie encombraient l'escalier, une chaîne énorme s'étendait par terre tout le long du corridor. Ils avaient décroché la porte entre les deux chambres où ils ne couchaient pas et condamné l'entrée extérieure de la seconde pour faire de ces deux pièces qu'un même appartement. Quand on avait franchi le seuil, on se heurtait à une auge de pierre, un sarcophage gallo-romain, puis les yeux étaient frappés par la quincaillerie. Contre le mur en face, une bassinoire dominait deux chenets et une plaque de foyer qui représentait un moine caressant une bergère. Sur des planchettes, tout autour, on voyait des flambeaux, des serrures, des boulons, des écrous. Le sol disparaissait sous des tessons de tuiles rouges. Une table au milieu exhibait les curiosités les plus rares, la carcasse d'un bonnet de cauchoise, deux urnes d'argile, des médailles, une fiole de verre opalin. Un fauteuil en tapisserie avait sur son dossier un triangle de guipure. Un morceau de côte de maille ornait la cloison à droite et en dessous des pointes maintenaient horizontalement une hallebarde, pièce unique. La seconde chambre, où l'on descendait par deux marches, renfermait les anciens livres apportés de Paris et ceux qu'en arrivant ils avaient découverts dans une armoire. Les vantaux en étaient retirés, ils l'appelaient la bibliothèque. Deux noix de coco, appartenant à Pécuchet depuis sa jeunesse, flanquaient sur la cheminée un tonneau de faïence que chevauchait un paysan. Auprès, dans une corbeille de paille, il y avait un décime rendu par un canard. Et on voit que c'est la même trajectoire qui conduit des lieux communs sublimes au dictionnaire des idées reçues et qui conduit de la culture de la curiosité à cet assemblage hétéroclite et ridicule des deux personnages. On peut s'en tenir là pour cette première partie avant d'entrer dans la bibliothèque d'un autre curieux, Don Quichotte, mais pour la brûler. Donc on peut reprendre à 11h12, si vous voulez.